Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Que se passe-t-il en mer Baltique? Un gazoduc sous-marin et un câble de télécommunication reliant la Finlande à l'Estonie ont été endommagés le 8 octobre 2023. Un acte probablement délibéré selon le gouvernement finlandais qui voit ses importations de gaz impactées. L'enquête pour déterminer les causes est en cours, mais la situation illustre l'importance que cette mer a en termes d'enjeux énergétiques et géopolitiques. Et ce, d'autant plus avec les grandes manœuvres de l'OTAN qui induit une activité navale intense. Avec ses 450 000 km² de superficie, la Baltique est redevenue une région stratégique majeure du nord de l'Europe. Ça représente 10% du territoire de l'Union européenne, avec, sur les 9 pays frontaliers, 8 membres de l'Union. Et ça, c'est sans oublier les 7, bientôt 8 membres de l'OTAN. Alors, que se passe-t-il en mer Baltique? Et quel rôle joue particulièrement la Finlande dans cette région? C'est le sujet de cet épisode d'Echo. On en parle avec le capitaine de corvette Häggblom, officier de marine finlandaise, et aujourd'hui stagiaire à l'école de guerre à Paris. Bonjour commandant, et bienvenue dans Echo.
Bonjour Arthur, merci de me recevoir.
C'est un grand plaisir, et justement j'en parlais en introduction, mais la Baltique est une petite mer entourée de 9 pays. Ça fait quand même beaucoup de passages, et ce qui induit en fait, on peut imaginer, mais quand même un trafic maritime important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, commandant, un peu quelles sont les interdépendances de la région?
Oui, c'est vrai, la mer Baltique, c'est une région, une mer avec beaucoup de trafic maritime. J'ai retenu quelque part qu'environ 15% mondialement de le trafic maritime se déroule en mer Baltique. Alors, c'est pas petit, c'est pas peu. Mais les interdépendances aussi, on peut les diviser en deux. Il y a une grande trafic intra-mer Baltique entre les pays riverains.
C'est ça, intérieur et propre aux 9 pays frontaliers.
Exactement. Et il y a aussi une grande partie de ce trafic qui est surtout entre la Russie et l'exportation de carburants fossiles russes.
D'accord, donc oui, c'est ça, il y a deux interdépendances, il y a en interne et en externe, et principalement avec la Russie.
Oui, mais c'est aussi pour surtout la Finlande et les pays baltes, la mer Baltique est une voie de transport primordiale pour la Finlande, environ 90% des exports et des imports sont par la mer Baltique.
Ces conséquences, on imagine bien qu'il y a quand même un enjeu énergétique derrière, potentiellement.
Oui, c'est sûr. On a vu ça depuis une quinzaine d'années que la Russie a utilisé l'énergie comme une arme contre les États ex-soviétiques. Mais maintenant aussi, après l'invasion en Ukraine, ça a devenu une arme contre l'Union européenne. Et c'est quelque chose qu'on a prévu dans la région baltique, surtout les pays baltes et la Finlande. Et on a fait une transition pour diminuer cette dépendance à la Russie depuis l'annexion de Crimée, vraiment.
En 2014.
Oui, et ça s'est bien déroulé. Maintenant, quand par exemple la Russie a coupé le gaz à la Finlande en 2022, ça n'a pas vraiment un effet majeur.
Ah, d'accord, c'est intéressant.
On est bien préparé.
Oui, c'est-à-dire que vous aviez anticipé cette interdépendance. Vous avez cité la date de 2014, est-ce que ça correspond à la mise en place et la décision, l'initiative des trois mers notamment?
C'est pas vraiment, pour la Finlande, c'est pas lié à l'initiative des trois mers, mais cette initiative des trois mers, c'est très important pour les pays membres dans cette initiative, les 12 pays.
Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est que l'initiative des Trois Mers? Quelle est cette initiative qui date de 2014, justement après l'annexion de la Crimée par la Russie?
Oui, en fait, c'était lancé en 2016. Alors, la mer Baltique, c'est le flanc nord dans cette initiative. C'est le Baltique, la mer Noire, ou l'Adriatique en français.
Oui.
Alors, dans les pays membres dans cette initiative, je crois que c'est plus de 100 millions d'habitants. Mais si on voit les pays au nord, alors les pays baltes, qui composent au total 6 millions de personnes, c'est pas vraiment la centre de gravité dans cette initiative quand on voit le taux d'habitants. Mais pour ces pays, trois pays baltes, c'est une initiative très, très importante.
Pourquoi?
parce que cette initiative va permettre d'encore diminuer la dépendance à la Russie, parce que ces trois secteurs, c'est énergie, transport et l'infrastructure numérique. Et c'est quelque chose où on veut avoir une résilience et pas être dépendant à la Russie.
Et vous avez dit quelque chose de super intéressant, c'est-à-dire que vous avez dit que l'initiative des trois mers, ça avait été une des réponses. Quelles étaient l'autre réponse, développer l'éolien en mer, par exemple?
Oui, mais surtout grâce aux Français, nous avons eu le plan nucléaire à Olkiluoto. Ça va produire maintenant environ 20% de l'énergie électrique en Finlande. C'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi le terminal de gaz naturel liquéfié qu'on a construit en Finlande. Et maintenant, c'est la première source de gaz naturel en Finlande et pas le gazoduc venant de la Russie non plus.
D'accord, donc ce qui explique aussi la bonne résilience du pays quand la Russie a coupé le gaz. Il y a aussi, à part l'énergie, des interdépendances économiques, notamment vis-à-vis de la Russie, mais pas que. Des interdépendances économiques qui sont notamment dues au secteur de la pêche industrielle, parce que la mer Baltique est une mer riche en poissons et en crustacés. Est-ce que c'est le secteur économique principal qui crée des interdépendances entre les pays baltes notamment?
Je dirais que quant à la pêche, non, c'est vraiment quelque chose un peu sensible à ce moment, parce que les poissons dans la mer Baltique sont pas vraiment stables.
Notamment celui du hareng, j'ai vu qu'il y avait... le hareng était menacé en mer Baltique.
Oui, alors c'est à cause de pollution, à cause de eutrophication. Et l'Union européenne a vraiment maintenant visé limiter le taux de pêche en Baltique. Et c'est quelque chose qui va affecter un peu la région économiquement, mais pas trop. C'est quand même un secteur d'économie limite.
Donc il n'y a pas que la pêche en tant que secteur économique au sein de la mer Baltique. Il y a quels autres secteurs qui créent des interdépendances économiques entre les différents pays baltes?
Il y a beaucoup de ferries.
Transport maritime.
Transport maritime entre les pays, par exemple entre la Suède et la Pologne, la Suède et je crois Lettonie. Et aussi beaucoup de ferries entre Tallinn et Helsinki, Helsinki-Stockholm, Stockholm-Tallinn. C'est un triangle vraiment bien trafiqué. Mm. C'est sûr, la mer Baltique, depuis la Hansa, dans le Moyen-Âge, ça a toujours été créé de fortes indépendances entre les pays riverains dans la mer Baltique. Et rien n'a changé depuis le Moyen-Âge.
C'est passionnant de voir que c'est une mer qui est quasiment une embouchure ou un lac. En tout cas, il n'y a qu'un seul point d'accès principal, c'est le point d'accès à l'ouest. J'aimerais qu'on parle maintenant aussi, on a parlé d'interdépendance économique, on a parlé d'interdépendance énergétique. J'aimerais maintenant qu'on parle aussi de défense. La Finlande a rejoint l'OTAN le 4 avril 2023, ce qui a permis d'ajouter à l'Alliance environ 220 bâtiments. Commandant, qu'est-ce que l'adhésion à l'OTAN a-t-elle changé concrètement pour les marins finlandais?
Pas beaucoup a changé pour les marins maritimes à ce moment. Depuis une quinzaine d'années, la maritime finlandaise a visé une interopérabilité en utilisant la langue anglaise, par exemple, et beaucoup de STANAG ont été appliqués.
Donc les STANAG, c'est les protocoles au sein de l'OTAN notamment.
Exactement, les protocoles de standardisation. Alors, dans le quotidien marin, pas beaucoup va changer, mais ce qui remporte un changement, c'est peut-être les quatre corvettes qui vont être données à la marine finlandaise à partir de 2028. Et ça représente quelque chose de nouveau dans la marine, parce que jusqu'à ici, tous les bâtiments ont été très petits, avec un maximum de 3 mètres tirant d'eau et environ 70 mètres de longueur.
Oui, on imagine que c'est des bâtiments qui sont adaptés à la navigation, notamment sur la mer Baltique.
Exactement. C'est des bâtiments, pas sûrement sur la mer Baltique, mais plutôt le long de la côte finlandaise et dans l'archipel. Et c'est quelque chose, l'archipel est très étroit, et c'est quelque chose qui a vraiment caractérisé la marine finlandaise. C'est une doctrine très défensive, et on n'a pas eu le besoin vraiment de même naviguer le grand bassin de la Baltique, mais plutôt les côtes de Finlande. Mais ça, avec les quatre corvettes en 2028, ça va changer un peu, parce que les corvettes sera environ 100 mètres de longueur, avec une capacité de naviguer toute la mer Baltique et créer de bonnes interopérabilités avec les autres marines.
Et comment est-ce que vous formez les marins pour naviguer sur ces quatre nouvelles corvettes? Ça peut être intéressant d'en parler, parce que si ça ne fait pas vraiment partie de la culture maritime et marine finlandaise, comment est-ce que vous, vous préparez les futurs marins qui vont opérer au sein de ces bâtiments?
Il y aura une grande concentration de systèmes d'armement dans le même bâtiment. Et ça va être le vrai changement. Je crois que si on sait naviguer l'archipel, on sait naviguer partout. C'est comme ça.
Oui, on imagine bien. Et vous avez dit que vous aviez déjà anticipé il y a une quinzaine d'années cette adhésion à l'OTAN. Mais concrètement, pourquoi est-ce que la Finlande a-t-elle adhéré à l'OTAN? Est-ce qu'elle en avait besoin?
Oui, clairement. Clairement, on a eu un besoin. Je crois aussi que ce besoin a été psychologique. On a toujours été bien à s'occuper de sa propre défense. Mais quand on a vu l'invasion de la Russie en Ukraine, c'était quelque chose qui a évoqué des sentiments et même des souvenirs collectifs de la guerre d'hiver en 1939. Et c'était un peu un choc pour nous. Beaucoup de gens disent que c'était pas une surprise, mais c'était quand même un choc émotionnel. Et on a vraiment ressenti que maintenant, il est l'heure, c'est maintenant ou jamais pour l'adhésion à l'OTAN. Et il y a toujours eu une certaine volonté politique parmi, pas la majorité, mais une minorité qui ont vraiment parler beaucoup pour atteindre ce but d'avoir la Finlande à l'OTAN. Mais et maintenant, cette minorité est rapidement devenue une majorité. Et c'était vraiment la voix de, on pourrait dire, la voix de peuple qui a forcé les politiciens à agir très rapidement pendant le printemps 2022 pour l'adhésion.
Et est-ce qu'il y avait aussi des besoins militaires de rejoindre l'OTAN, c'est-à-dire peut-être de modernisation de matériel, s'il y a besoin, etc. Donc c'est une question.
Alors, il y a toujours des points d'amélioration. La défense finlandaise a toujours été, pas peut-être toujours, mais ces dernières décennies, les trois armées, alors l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, sont tous été, pas peut-être pleine forme, mais la forme est bonne. Sur le point de l'amélioration en termes de matériel, je crois que oui, il y a toujours des choses à faire, mais pas beaucoup. On a un système de conscription qui fonctionne très bien avec des réservistes qui font de l'entraînement chaque année pour s'améliorer.
C'est ça, des centaines de milliers de réservistes selon les derniers chiffres.
Oui, je crois que le chiffre à ce moment, au total, c'est 280 000. Et c'est vraiment le noyau de la défense.
Et que ce soit donc 280 000 qui sont dispatchés au sein des trois forces finlandaises.
Exactement. La plupart, évidemment, dans l'armée de terre, mais armée de l'air, peut-être 30 000 et la marine 25 000 environ, quand on est mobilisé.
C'est costaud. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur le sujet de l'OTAN, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN est une décision franche qui vient rompre avec des décennies de neutralité. Vous avez évoqué il y a quelques instants le choc psychologique que ça a été de voir la guerre entre Ukraine et Russie. Est-ce que la marine finlandaise se prépare au conflit de haute intensité?
En effet, oui. C'est la tradition militaire finlandaise, peut-être à cause ou peut-être grâce à notre statut de non-allié, c'est toujours le conflit de haute intensité auquel on se prépare. La Finlande, on a assisté en Afghanistan et même en Irak dans cette guerre contre le terrorisme, mais ce n'est pas la guerre de projeter des soldats à l'extérieur, ça n'a jamais été un grand point pour la défense finlandaise. C'est le point de fort a toujours été dans le conflit de haute intensité. En Finlande, on croit que c'est bien que l'OTAN a maintenant aussi, depuis quelques années, repris son rôle dans la guerre d'haute intensité. Alors c'est cette guerre à laquelle on se prépare.
D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Et maintenant, on peut quand même se poser la question de la coopération entre les différentes flottes des pays baltes. Comment est-ce que vous interagissez avec la flotte de la Suède, par exemple, etc. Quelles sont les différentes coopérations?
Oui, c'est une bonne question. Ça va aussi peut-être changer maintenant avec l'adhésion à l'OTAN. Intéressamment, la coopération avec des marines a été très, très proche. Peut-être quand deux pays non alliés trouvaient quelque chose en commun, des intérêts en commun. C'est vraiment depuis 2010 environ que les flottes suédoises et finlandaises ont été très proches en faisant plein d'exercices et aussi une communication quotidienne. Je crois et j'espère que ça ne va pas finir avec l'adhésion à l'OTAN, mais plutôt on va peut-être élargir cette coopération qu'on a trouvée très bonne et très fructueuse avec les pays baltes, par exemple avoir les pays baltes au sein de cette bon format de coopération dans le pays dans la mer Baltique.
J'allais dire que effectivement ça peut même être un atout au sein de l'OTAN d'avoir des flottes qui se connaissent déjà et qui savent déjà comment interagir les unes entre elles au sein de l'OTAN.
Oui, sans doute. Et j'espère que n'importe quelle sorte de coopération, quel format de coopération dans le futur, cette proche coopération entre la Finlande et la Suède va rester.
Et il y a d'autres partenaires autres que la Suède avec lesquels vous avez des rapports très proches ou pas?
Oui, surtout alors quand on regarde la carte, c'est logique avec les Estoniens. L'Estonie a aussi une certaine compétence de lutte anti-mine. Et dans cette dimension, il y a eu beaucoup de coopération entre les Finlandais et les Estoniens. Et ça veut dire aussi une coopération entre les plongeurs. Les plongeurs anti-mines finlandais, c'est les plongeurs anti-mines estoniens. Dans quelques années, on aura avec l'Estonie le même type de missiles anti-navires. Et je crois qu'avec un tel système commun entre les deux pays, ça va encore rapprocher la coopération.
Effectivement, avec la mise en place, comme vous venez de le dire, de systèmes, notamment informatiques, on imagine bien. Mais du coup, le temps avance et il est temps de parler de l'enjeu majeur de cette mer Baltique, qui est celui de la pollution maritime. Pour rappel, la mer Baltique est une mer quasiment fermée. Je l'ai dit, le seul point de passage, c'est celui situé à l'ouest, un point de passage relativement fermé, ce qui fait que l'eau ne se régénère que tous les 30 ans. Ça a de nombreuses conséquences. Commandant, lesquelles?
Tu as raison, Arthur, que cet enjeu d'environnement, c'est peut-être l'enjeu le plus grand. Alors, la mer Baltique, c'est une mer qui n'est pas en bonne santé au moment. La situation a été stablement mauvaise pendant une vingtaine d'années. C'est surtout l'eutrophication qui est le problème et la source de la pollution. C'est pas vraiment la pollution en tant que ça, c'est l'eutrophication.
L'électrification?
Eutrophication, alors avec les fertilisants glissants à la mer de l'agriculture, ça pose un problème, où, surtout pendant l'été, il y a trop de fertilisants, d'azote et phosphore. Ça va faire qu'il y a un croissement de certaines plantes et certains organismes.
Les algues notamment?
Oui, et les algues qui sont vraiment poissonneux.
Poisseuses,
exactement. Et c'est quelque chose qui détruit les autres plants dans l'environnement maritime. Et c'est quelque chose qui est très inquiétant. Et ça va affecter aussi les poissons et tous ceux qui habitent dans la mer Baltique.
Effectivement, parce que ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est des déchets terrestres qui impacte fondamentalement la biodiversité marine. Cette mer est polluée à cause des déchets terrestres et des fertilisants, du coup, c'est ce que vous venez de dire. Alors, j'ai lu quelque part, mais que la pollution maritime, c'est pas que les fertilisants, c'est aussi un champ d'épaves, où les épaves pullulent dans les fonds marins, parce que, rappelons-le, la mer Baltique a été le théâtre de batailles navales importantes durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie aussi des autres causes de cette pollution marine.
Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs sources. L'eutrophication n'est pas la seule, mais c'est la majeure. Les autres sources, on les gère.
C'est-à-dire, comment vous les gérez? Qu'est-ce que la marine finlandaise fait pour dépolluer l'eau, par exemple?
Pas beaucoup, mais c'est, les autres sources pour la pollution sont, je dirais, peut-être pas dérisoires quand on voit l'eutrophication, mais quand même très petites. Si on sait lutter toutes les sources, c'est bien, mais sinon, il faut vraiment se concentrer dans les sources majeures à la pollution. Ce que la marine finlandaise a fait, c'est vraiment, il reste beaucoup de mines après la deuxième, même après la première guerre mondiale. Et c'est toujours quelque chose dont la marine finlandaise s'occupe avec les autres flottes aussi dans la région. Mais c'est un travail très, très dur et lent.
On sent le marin finlandais qui a vraiment travaillé. Vous avez travaillé sur ces sujets-là ?
Non, moi, je ne suis pas flottiste. J'ai servi quelques années dans les forces côtières au sein de la marine. Et après une dizaine d'années, je suis dans les forces spéciales. Alors, les flottes, ce sont mes collègues qui s'en occupent. Moi, je reste sur terre.
Et revenons peut-être sur le sujet de la pollution maritime. Donc, vous avez dit qu'il y a relativement peu d'actions qui sont menées pour dépolluer la mer Baltique par la flotte finlandaise. Comment est-ce que ça prend forme, ces actions de dépollution ?
Alors, la marine, c'est pas l'outil premier à lutter contre la pollution. Bien sûr, on va gérer les propres déchets, mais les grands travaux, c'est surtout dans les plans au sein de grandes cités le long de la côte baltique. Ou comment nettoyer l'eau qui a été utilisée dans les grandes cités avant de laisser dans la mer. La Finlande, par exemple, était très active pour construire un nouveau plan pour le nettoyage de l'eau à Saint-Pétersbourg, qui depuis son ouverture a vraiment diminué la pollution dans le golfe de Finlande. Mais c'est le golfe de Finlande, c'est juste une petite partie de toute la mer Baltique. Mais c'est des actions comme ça qu'il faudrait vraiment faire, et ça coûte cher. Et c'est quelque chose où l'Union européenne a vraiment aidé aussi financièrement, mais ça reste des grandes choses à faire.
Ce sera le mot de la fin. Merci, commandant, c'est la fin de cette interview. Je rappelle que vous êtes le capitaine de corvette Häggblom, officier de marine finlandaise et aujourd'hui stagiaire à l'école de guerre à Paris. Petit message pour nos auditeurs et nos auditrices. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de DECO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la marine. Thank you.